autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur nos vies, les nôtres et celles des autres vivants dans les villes où réside plus de la moitié des êtres humains, mais pas seulement, car nos villes, nos cités, attirent aussi les autres animaux et même les animaux sauvages. Renard à Londres, coyote à New York, léopard à Bombay, kangourou à Canberra, sans oublier les plus familiers, rats, canards, oiseaux, qui ont pris leur quartier en ville, avant même le confinement qui nous les a seulement rendu plus visible et plus audible. D'où l'idée de notre invitée, la philosophe Joëlle Zask, formidable empêcheuse de penser en rond, qui nous propose dans son dernier ouvrage, Zoo City, à nous projeter dans une ville où l'homme devra apprendre à cohabiter avec les animaux sauvages. Ni pour, ni contre, mais avec. Et ça, ça change tout. Comment repenser la cité et l'altérité à l'heure de toutes les crises environnementales, écologiques, sanitaires, économiques? Autour de la question, comment construire une nouvelle arche de Noé, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Bienvenue pour nous remettre en question.
Cette posture d'un être qui croit que finalement la nature est un stock de ressources, les autres vivants sont de la viande sur pattes et qu'il peut finalement avoir un comportement de prédation et ne pas assigner de limites à son bon droit au nom du droit des autres à exister. Et donc ça, je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut repenser les choses aujourd'hui.
C'est une autre philosophe, Corinne Peluchon, qui nous incite aussi à repenser, à réparer le monde. Vous la citez d'ailleurs dans votre dernier essai, Zoo City, paru aux éditions Premier Parallèle. Bonjour Joëlle Zask.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Pardon. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. C'est aussi un peu une aventure, car on ne sait jamais jusqu'où. Pardon, la philosophe défricheuse que vous êtes, enseignante à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de philosophie sociale, va pouvoir nous entraîner. Dans votre précédent essai, Joëlle, Quand la forêt brûle, paru en août 2019, vous aviez été une des, si ce n'est la première, à nous alerter sur les méga-feux et sur cet enfumage généralisé à tous les sens du terme. Aujourd'hui, dans Zoo City, des animaux sauvages dans la ville, publié donc aux éditions Premier Parallèle, vous nous invitez, Joëlle, à nous préparer à une nécessaire cohabitation avec les animaux sauvages qui ont déjà commencé à s'installer dans nos villes. Alors, c'est pas une fiction ni de la science-fiction, c'est pas uniquement une expérience de pensée, c'est tout ça à la fois et bien plus, Joëlle Zask.
Alors en effet, on peut envisager qu'il y ait de plus en plus d'animaux sauvages en ville, pour toutes sortes de raisons. La première, c'est évidemment la destruction de la nature, et la seconde, c'est l'étalement, le grandissement de nos villes. Et il y en aurait même une troisième, qui est que dans la mesure où nous sommes de plus en plus nombreux à vivre en ville et que nous nous préoccupons de nos conditions d'existence, nous entrons dans toute une période où nous tentons de rendre nos villes respirables. Alors respirables, justement, vous faisiez allusion à l'expérience de l'étouffement, et je crois que c'est une expérience absolument décisive que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue. On étouffe parce qu'on est trop nombreux, on étouffe parce qu'il y a de la pollution, on étouffe parce qu'on est allergique ou rendu allergique, on étouffe parce qu'il y a de la fumée. On étouffe parce qu'on a le Covid aussi. Et donc toutes ces expériences d'étouffement nous enjoignent à verdir, comme on dit, nos villes. C'est peut-être pas le bon terme, en tout cas à les écologiser. Et du coup, ce qui est bon pour nous, ça serait peut-être aussi bon pour les animaux. Et du coup, entre la destruction de leur habitat et la transformation de notre habitat en une cité de plus en plus verte, eh bien on peut imaginer un grand retournement. On peut imaginer que les villes...
Un grand retournement, alors c'est assez joli parce que vous employez le mot grand retournement, voire grand remplacement, cher au terrible leader d'extrême droite. Sauf que là, le grand remplacement, le grand retournement, ça serait interespèce, hein, c'est ça?
Et voilà, peut-être qu'un certain nombre d'animaux pourraient être amenés à prendre notre place. Ça serait plus la planète des singes, mais la ville des singes. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de villes, les singes sont devenus carrément envahissants. On peut penser à des macaques ou à des babouins en Afrique qui occupent le terrain quand même. Et ça pose vraiment des problèmes, je pense, très graves. Nos villes européennes ne sont pas complètement investies par les animaux sauvages. Je crois qu'il y en ait beaucoup en termes de petites bêtes. Mais il y a des tas de pays où les petites bêtes sont accompagnées de très grandes bêtes qui sont de plus en plus nombreuses, et on peut imaginer qu'elles le seront de plus en plus. Alors voilà, c'est ça, c'est en ça que c'est une expérience de pensée, mais elle est très réaliste, et je pense que l'hypothèse que j'imagine est réalisable, dans la mesure où on ne voit pas très bien que les animaux vont se laisser mourir sans rien dire, et en restant tranquillement dans les endroits qui sont en train de brûler, de s'assécher, etc. etc.
De fait, ils vont arriver aux portes de nos villes, ils y arrivent déjà, ils mangent dans nos poubelles, et ça pose question, parce que vous dites finalement, il s'agit de voir comment on pourra cohabiter ensemble, et pas ni les refouler, ni... Enfin voilà, comment on pourra faire, parce que la cohabitation va devenir probablement indispensable. Comme vous dites, ils vont pas cesser de mourir les animaux, ils vont venir se nourrir chez nous.
Ils vont venir se nourrir et ils viennent boire. Alors ça, c'est la première chose qu'ils font. Par exemple, on en avait beaucoup entendu parler au moment des méga-feux australiens qui ont eu lieu en janvier dernier. 10 000 dromadaires ont été abattus parce que ces dromadaires sont en train de mourir de soif et se précipitent vers les villages et les villes pour déterrer les canalisations, détruire les climatisations et accéder à l'eau. Alors voilà, c'est ça qui se passe. Et les animaux donc souffrent de faim, souffrent de soif, souffrent évidemment de la disparition de leur habitat. Et donc le problème de la cohabitation ne manque pas de se poser. Effectivement, il se pose pour deux raisons. D'une part, d'un côté, tuer tous les animaux qui vont nous déranger, ça pose des problèmes éthiques, ça c'est évident.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Mais ça pose aussi des problèmes écologiques. Par exemple, d'après un spécialiste, si on tuait tous les rats qui sont à Paris, ça, d'une certaine façon, l'espèce d'écosystème qui s'est installé avec les rats, ou malgré eux peut-être, en tout cas, serait vraiment mis à mal. Donc c'est important aussi de réfléchir à la ville comme écosystème qui s'est constitué au cours du temps. Et tuer, par exemple, toutes les perruches vertes aujourd'hui, peut-être que ce serait un problème, finalement, que ça causerait un déséquilibre. De même, en général, on sait que, par exemple, chasser les coyotes, ce sont des animaux qui vivent en horde et qui ont investi les parkings, apparemment, de la ville de New York. Eh bien, lorsqu'on les chasse, en réalité, la troupe se défait, les animaux se mettent en couple, ils se cachent, ils s'isolent et ils font beaucoup plus de petits que normalement lorsqu'ils vivent tranquillement. Donc voilà, on a toutes sortes d'effets secondaires en quelque sorte de l'extermination des animaux avec lesquels ensuite il faudrait composer et qui pourraient être bien pires que le mal qu'on a voulu éradiquer.
D'où cette question que nous avons choisie pour titre de cette émission et qui affleure tout au long de votre livre, c'est comment construire une nouvelle arche de Noé. Alors pour mieux comprendre pourquoi et comment nos villes vont de plus en plus devenir des villes refuges, vous le dites, elles le sont déjà pour les abeilles, entre autres, vous nous rappelez un récit enfantin qui en dit bien plus qu'un long discours, c'est l'histoire de Babar. Oui, Babar, le petit éléphant qui va trouver refuge en ville auprès d'une vieille dame qui va l'habiller, le faire marcher sur deux pattes, le bonheur, peut-être pas. Comment écoutez Babar entre les lignes, extrait de Babar à la ville, et vous nous expliquerez pourquoi ce récit est emblématique, Joël Zask.
Il y a longtemps, très longtemps, quand j'avais ton âge, j'avais très peur. Après avoir vu ma mère mourir sous les balles d'un méchant chasseur, je me suis retrouvé tout seul dans la forêt. Et j'allais connaître ma première expérience de l'autre monde. J'allais découvrir la ville. Je n'avais jamais vu tant de belles choses.
Bonjour, vous allez bien? Toi. Bon appétit. C'est un endroit fantastique par ici. Tout le monde est gentil avec moi. Je parie que c'est vous le plus gros du troupeau. Bonjour, bonjour, je m'appelle Baba. Et vous, c'est comment? Vous êtes un oiseau? J'ai beaucoup d'amis chez les oiseaux. Oh, ça y est, j'ai compris. Ça doit être une façon de se présenter dans cette ville.
Thank you.
sortons d'ici tout de suite.
Oh là là.
Tiens, tu me sembles avoir besoin d'aide, mon petit ami.
À vrai dire...
Viens avec moi, je vais t'aider à traverser la rue, viens. Tu sais que la ville peut présenter de nombreux dangers.
La ville? Alors c'est donc ça, une ville. Merci beaucoup, mademoiselle. Avec vous, traverser une rue, ça paraît facile.
Oh, disons que j'ai souvent eu l'occasion de m'entraîner, mon petit...
Babar, enchantée de vous connaître, mademoiselle.
Mais moi aussi. Est-ce que tu penses avoir encore besoin d'aide?
Je crois que je vais pouvoir me débrouiller maintenant. Merci de me l'avoir demandé.
Mais c'est normal. Au revoir, Babar.
Au revoir, mademoiselle. Elle est gentille, cette demoiselle. Si tout le monde est aussi gentil ici, je ne vais pas avoir de mal à m'adapter.
Babar en ville qui, heureusement, rencontre la vieille dame. Pourquoi Babar? Mais quand on l'entend, on voit déjà quelques pistes. C'est aussi emblématique, symbolique de notre pensée du sauvage, des animaux sauvages et de la ville civilisée.
Alors là, clairement, Babar abandonne sa sauvagerie pour devenir urbain. Et donc, ce que dit ce conte enfantin de Jean de Brunhoff, c'est que, en fait, on ne peut pas être à la fois urbain et sauvage. Et cet antagonisme est très précisément le problème que nous allons devoir traiter. De fait, la ville n'est pas faite pour la vie sauvage. Elle est même faite contre, alors ce qu'on appelle la nature. Elle est faite contre, évidemment, tout ce qui pourrait relever du danger, de la férocité. Elle est faite contre l'imprévisible, elle est faite contre ce qui fait sale, ce qui fait désordre, ce qui obéit à sa propre loi. Mais elle est aussi faite contre, d'une certaine façon, l'improvisation. Elle est faite contre tout ce qui déborde, tout ce qui pourrait sembler relever d'initiatives personnelles. Or, je crois que Babar, en arrivant en ville, abandonne son initiative personnelle. Et en fait, on ne le voit pas quand on est enfant. On sent bien qu'il y a des tensions. On sent que Babar, d'une certaine façon, est forcé à s'assimiler. Il va perdre ses caractéristiques d'éléphant. Il va être habillé. Il va se conduire exactement comme un humain. Il va aller à l'école. Il va apprendre à lire et à compter. Il va avoir des amis humains. Il va perdre son caractère éléphantesque, en fait. Il en abdique, en quelque sorte. Et quand il retourne dans sa jungle, qu'il n'a quand même pas oublié, qu'est-ce qu'il fait? Il construit une ville. Et c'est très étonnant, en fait, ce conte auquel nous sommes très attachés, pour autant, rejoue cette opposition un peu dramatique entre la nature et la ville.
C'est ça, c'est un conte qu'au fond, il faudrait aujourd'hui, on n'a peut-être pas le choix d'ailleurs, déconstruire, parce que notre ville, elle a avancé, elle a bougé, les animaux sauvages sont au port de nos villes, ils nous dérangent justement... On se demande d'ailleurs qui est le plus sauvage des deux parfois, mais ils nous dérangent, et ça vous l'expliquez très bien, quand on a l'impression qu'ils sont plus sauvages, quand ils ont un ours et la tête dans une poubelle, eh ben, ah, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Il devient méprisable, on le méprise.
Oui,
au fond, on place le sauvage sur un piédestal aussi, complètement, et nous, civilisés, dans nos villes, on ne supporte pas qu'il y ait le sauvage qui vienne nous rendre visite. Or, nos villes s'étendent de plus en plus, on est de plus en plus nombreux, on veut les verdir. Oui, on est dans un vrai paradoxe. Il faut qu'on abandonne Babar.
Oui, il faut vraiment laisser Babar dans sa nature sauvage. Et si cette nature n'y est plus, eh bien l'accueillir en sauvage, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, la question qui doit être posée, c'est comment les animaux peuvent-ils être en ville tout en restant sauvages? Mais de fait, ils le sont. Le problème, c'est dans nos têtes et pas dans la réalité. C'est-à-dire que un cafard est sauvage. Les canards sont des animaux sauvages, ceux qu'on a vus sur le...
Pendant le confinement, traverser les clous sur les passages cloutés.
Par exemple, ou la Comédie française. De même, les goélands sont des animaux sauvages, les rats sont des animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux domestiques, ce ne sont pas des animaux familiers, sauf certains, mais enfin bon. Ce ne sont pas des animaux liminaires, ou ils ne sont pas non plus... totalement opportuniste. Enfin, disons que c'est des animaux dont la catégorie est véritablement celle du sauvage. Ce sont des animaux sauvages. C'est-à-dire des animaux qui ne doivent pas leur reproduction, leur entretien et leur alimentation aux bons soins des hommes. qu'ensuite ils se servent, ça c'est un autre problème, mais de fait, nous ne les élevons pas, et donc ils ne sont pas du tout domestiques, et ils ne sont pas de rente. En fait, ils sont sauvages.
C'est ça. Et ce qui veut dire qu'on ne sait pas avoir un autre rapport aux animaux qui ne soit pas celui de notre animal domestique qu'on adore, ou celui d'animaux de rente qu'on élève pour sa viande, son lait, etc. On ne sait pas avoir un rapport... l'homme est un animal, mais d'homme aux autres animaux, pas sur un pied d'égalité, c'est pas ça la question, mais à les laisser vivre, à les laisser être.
À les laisser être sauvages, c'est-à-dire à reconnaître la dimension sauvage qui est en eux, c'est-à-dire le fait qu'ils se trouvent à un endroit qui n'était pas prévu, le fait qu'ils agissent de leur propre chef, le fait qu'ils apprennent, le fait qu'ils s'ajustent à un certain nombre de conditions et qu'ils en profitent.
Le fait qu'ils
s'acclimatent, voilà, parce que bon, le terme d'adaptation est plus adapté, disons, au niveau, à l'échelle des espèces, sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Oui, ils s'ajustent, ils s'acclimatent, ils apprennent et ils ont un tempérament en plus. Il y a des individus. Enfin, on le sait, n'importe quel berger vous dira que dans le troupeau, les animaux n'ont pas tous la même fonction, ils n'ont pas tous le même caractère. Et aujourd'hui, beaucoup d'études... justement, ont pour objet le tempérament des animaux sauvages. Parce que quand on les voit arriver en ville, on se rend bien compte que certains sont plutôt frileux, d'autres sont très courageux, certains apprennent très vite, d'autres se placent sous la coupe d'un leader, en quelque sorte. Donc on voit bien qu'il y a des tas de distinctions que la ville fait apparaître et qui nous rendent les animaux, justement... très différents de ce qu'on avait imaginé qu'ils étaient. Parce que dans notre imaginaire, si vous voulez, soit l'animal est féroce et dans ce cas, il faut le dominer, on va le mettre en cage, soit il est merveilleux au sens où il les vit en symbiose avec la nature, dans ce cas, il ne change pas. Et c'est pour ça que les voir fourrager dans les poubelles, ça nous donne une impression très dégradante et comme si l'animal était dénaturé. Du fait qu'il ne fait pas ce à quoi on s'attend, en réalité.
Comme s'il y avait un mythe d'un animal sauvage qui ne bougerait pas, n'évoluerait pas, ce qui n'est pas vrai, pur.
À l'état pur.
Mais il n'y a pas de pureté, ni chez nous, ni chez les animaux. On évolue et la vie fait qu'on bouge, qu'on s'adapte. Et au fond, ils nous montrent peut-être, quelque part, à leur manière, un exemple de vie adaptative. Nous aussi, on doit s'adapter et évoluer. Et voir qui on a en face. Même si ce n'est pas le même monde, la même manière d'habiter le monde.
Voilà, et je pense qu'effectivement, disons que les animaux, en tout cas sauvages, lorsque nous les remarquons en ville et lorsque nous abandonnons cette opposition entre l'animal à dominer et l'animal à mettre en cage, et l'animal à accueillir généreusement dans l'intérieur de notre intimité, lorsque nous abandonnons ces images, d'une certaine façon, nous apprenons quelque chose de la ville et nous apprenons quelque chose de, j'ai envie de dire aussi, du sauvage qui est en nous. Nous apprenons quelque chose de notre propre liberté. En tout cas, nous apprenons que nous avons été franchement bien coupés de la nature, et ça, beaucoup de gens l'ont dit pendant la période de confinement. Donc nous apprenons que nous avons un désir de reconnexion, comme ça s'est beaucoup dit, avec la nature. Et cette nature, elle n'est ni la nature dangereuse à exploiter ou à dominer, ni la nature à sanctuariser, à admirer, à mettre sous cloche. C'est une autre nature qui est en jeu. Et cette nature, elle apparaît dans la ville. Donc les animaux, en arrivant dans la ville, ils ouvrent les portes de la ville. J'ai envie de dire, ils la transforment en cité, en fait.
Ah, les animaux transformeraient la ville en cité. On va y revenir parce qu'on penserait plutôt que ce serait le propre des hommes civilisés face aux animaux sauvages.
Voilà,
on va y revenir. Hein. Vous citez aussi, Joël Zask, dans votre ouvrage Zoo Cities, la philosophe et éthologue Vinciane Després, auteur entre autres de « Que diraient les animaux si les chercheurs leur posaient les bonnes questions », qui s'est dernièrement intéressée aux oiseaux qui chantent et enchantent leur territoire, car le territoire, comme la notion de frontière, est toujours présent chez les oiseaux, mais pas du tout comme nous, humains. L'imaginons, c'est l'éclairage de Vinciane Després dans son ouvrage « Habiter en oiseau ». Si je parle par exemple du cas typique du bruant des roseaux, il va de plus en plus étendre la période dans laquelle il s'isole, jusqu'au moment où il ne revient plus du tout dans le groupe. Et il reste sur un territoire qu'il aura comme ça construit, jour après jour, à coups de chant. À coups de chant, parce que c'est ça, en fait, les frontières, c'est le chant, c'est jusqu'où porte son chant, c'est ça. Alors, l'étendue de son territoire.
Enfin, c'est une hypothèse possible.
C'est, c'est aussi à coups d'arpentage, puisqu'il vole, hein, les oiseaux sont très mobiles, donc il va voler. C'est aussi à coup de surveillance de frontières, hein, puisque les frontières vont généralement
mais
être...
Mais c'est quoi une frontière pour un oiseau? Elle est invisible pour nous.
Elle est invisible pour nous, et je vais dire, on le voit quand un autre oiseau la passe. Donc la frontière, en fait, on peut tout de suite la déterminer. C'est si, à partir du moment où un autre oiseau, un voisin ou un autre oiseau qui vient d'ailleurs, passe cette ligne invisible, on le voit tout de suite parce que l'oiseau résident se précipite pour lui faire des ennuis. Alors, en tout cas, pour chanter à tue-tête, pour lui faire des signes de menace, etc. Et on voit tout de suite que les signes de menace, et ça c'est typique par exemple du bruyant des roseaux, les signes de menace s'arrêtent immédiatement que l'autre oiseau est repassé de l'autre côté de cette ligne.
Ah, donc il y a vraiment une frontière. Hein,
alors, il y a une ligne, alors visiblement, elle est assez précise. Et une fois que l'autre oiseau repasse de l'autre côté de la ligne, tout s'arrête. Donc, visiblement, c'est ça. Un territoire est un lieu défendu. Et défendu contre qui? Contre toute intrusion d'un oiseau de la même espèce et parfois même d'une autre espèce. Parce qu'il y a parfois aussi des territoires qui sont défendus de manière interspécifique.
Habiter en oiseau avec le bruyant des roseaux. Vous voulez réagir à cet éclairage de l'éthologue et philosophe Vinciane Després que vous citez hein, dans votre ouvrage Joël Zask, Zoocité.
Ce qui est très intéressant avec l'arrivée des animaux sauvages en ville, arrivée, je dois le préciser, que je déplore, parce que s'ils sont en ville, c'est parce que justement, ils n'ont plus de place dans la nature qui est complètement dénaturée. Ça, il faut quand même le rappeler.
Bien sûr.
Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, il faut faire avec l'existant et éventuellement réparer, effectivement. Mais en tout cas, l'existant, c'est qu'ils sont là, ou c'est qu'ils pourraient bien être là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils nous révèlent la multitude de géographies qui sont celles de nos villes. Du coup, d'une certaine façon, ils nous donnent l'idée d'un feuilletage de géographies souples qui peuvent être plus ou moins ajustées les unes aux autres, parfois complètement ignorantes les unes des autres.
En ville, on peut cohabiter, oui, plusieurs espèces dont la nôtre peut cohabiter
pas,
avec
oui,
d'autres.
Tout à fait. On peut d'ailleurs cohabiter. Enfin, alors je préférais le terme de coexister d'ailleurs que de cohabiter. Mm-hmm. Enfin, on pourra préciser la distinction entre les deux plus tard. Mais disons que cette coexistence peut se faire dans l'ignorance mutuelle complète. C'est-à-dire que il se passe des tas de choses dans les galeries situées sous ma maison dont je n'ai aucune idée. Sans doute se passe-t-il aussi des choses dans le grenier, se passe-t-il des choses sur les toits, etc. Et donc la géographie des animaux. C'est une géographie évidemment qui est propre à chaque espèce et une géographie qui comprend des lieux très concrets, des niches et des corridors, qui comprend des passages, qui comprend des constructions, des abris, mais également des champs, pourquoi pas, mais également des espaces sonores, les étoiles, la voûte étoilée pour les oiseaux migrateurs, également des aliments, également des déplacements, beaucoup de déplacements. On n'a pas, certains chats ont été équipés, alors je parle des chats, là, ce sont des animaux familiers, quoi qu'il y en ait dans beaucoup de villes, il y en a beaucoup de sauvages également. Mais lorsqu'ils sont équipés de colliers GPS, on se rend compte qu'ils font mais des dizaines et des dizaines de kilomètres chaque nuit, en fait, et que la géographie de notre chat qui est lové dans son fauteuil toute la journée est en fait extrêmement complexe, très variée d'ailleurs, et étonnamment étendue par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre.
Oui, chacun donc, existe différemment dans une ville, et pour lui et pour chaque animal sauvage, comme pour chaque animal domestique, comme pour chaque humain, la ville est autre chose.
Voilà, c'est autre chose, c'est une autre ville, c'est un autre espace-temps, en quelque sorte, qui parfois entre en conflit avec nos espaces-temps ou avec les espaces-temps d'une autre espèce, parfois au contraire, forme justement ce qu'on appelle un écosystème, c'est-à-dire comme des territoires parfaitement ou relativement bien ajustés les uns aux autres, même si cet ajustement il est toujours très dynamique.
Et
en
où
réalité.
Chacun a sa place, hein. Il n'y a pas d'angélisme hein, par rapport à ces,
il y a aucun
à ces
angélisme,
animaux
voilà.
sauvages, ils ne font pas ni mieux ni moins bien que nous, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. Vous disiez à l'instant, avant l'intervention de Vinciane Després, Joël Zask, que c'était les animaux qui feraient peut-être de nos villes des vraies cités. Alors expliquez ça, parce qu'on a quand même l'impression que la cité, elle a été construite par l'homme civilisé et certainement pas par les sauvages.
Je crois qu'on a... Enfin, il est utile d'opposer ou de distinguer ville et cité, même si c'est une distinction qui n'est pas très fréquente. Alors, le sens de ces mots peut être précisé, enfin, il n'est pas gravé dans le marbre, mais enfin, en tout cas, l'utilité, c'est justement d'opposer la ville en tant qu'elle est issue
d'une fortification, en quelque sorte, de la cité en tant qu'elle est une région. On peut parler de la cité, par exemple, aussi en termes de pays. Le pays, c'est le lieu qui est habité par les paysans, mais c'est aussi habité par les habitants, en quelque sorte. Et un pays, c'est un écosystème. Un pays, c'est un système de vie complet. Et il se trouve que ce qu'on appelle les cités dans l'Antiquité, par exemple, qui n'ont rien à voir avec les cités idéales, qui seraient plutôt d'ailleurs des villes idéales, les cités, d'une manière générale, ont été pensées comme des territoires autosuffisants dans lesquels on rencontre des êtres humains, bien sûr, des végétaux, des jardins partagés, des territoires en réserve, des forêts cultivées, des animaux, bien sûr, et puis une nature sauvage qui est respectée pour ce qu'elle est.
Donc, les pas communs, de fortification voilà. dans les cités, voilà. et des espaces communs.
Et des espaces communs, et par ailleurs aussi des systèmes de construction qui permettent ce que j'ai appelé des niches et des passages, qui sont aussi des termes écologiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a une ville-cité qui a été imaginée par Patrick Geddes, qui était un architecte urbaniste du tout début du XXe siècle. C'est lui qui a fait le plan d'ensemble de Tel Aviv. Et là, vous avez une ville qui est constituée de blocs, en quelque sorte. Et c'est des villes composites qui sont susceptibles de s'agrandir sans nier, en quelque sorte, l'indépendance et la pluralité de chacun des blocs. On a le même exemple à Savannah, en fait, qui a été vraiment construit comme une cité. Et ceci au début...
Savannah,
aux États-Unis, en Géorgie, qui est une ville imaginée par Oglethorpe, qui était un lord de la cour anglaise, et qui a emmené un certain nombre de prisonniers qu'il a fait libérer parce qu'ils étaient enfermés pour dette à Londres, dans les colonies, dans la colonie de Géorgie. Et il crée Savannah sous la forme également de blocs. Oui, il y a une dimension finalement de... C'est-à-dire chaque quartier, chaque bloc est comme une petite cité auto-gouvernée, dans une certaine mesure, qui permet toutes les activités nécessaires au développement de la vie humaine, comme de la vie d'ailleurs des autres êtres qui se trouvent là, en particulier une forme d'autosuffisance alimentaire, d'autant qu'ils sont, chaque bloc est couplé à une ferme qui se trouve plutôt à la périphérie. Et donc les blocs peuvent comme ça s'ajouter les uns aux autres sans que la pluralité de l'ensemble soit détruite. Ça, c'est la cité. La ville, historiquement, c'est, pour prendre un exemple aussi biblique, c'est Babel. Voilà. C'est la ville, c'est, elle commence par l'évidement d'un lieu, la suppression de tout l'existant, l'érection de remparts ou de palissades, pensons aux villes coloniales, et puis ensuite, à l'intérieur, on crée un monde purement humain, c'est-à-dire un monde spirituel ou prétendument spirituel, c'est-à-dire un monde débarrassé du sauvage, du corps, du biologique, séparé de tout ce qu'on a dit au début. Et c'est-à-dire un monde, en fait, sous contrôle, un monde entièrement rationalisé. Et là, on tombe, justement, dans la catégorie de ce qu'on appelle la cité idéale. Alors, c'est celle de Fourier, c'est celle de Campanella, c'est celle de Mort, c'est celle de Le Corbusier, plus près de nous. Et donc, c'est peut-être celle des bides, voilà, ces business, ces centres de vie, tous les mêmes dans le monde, qui sont en fait des centres à la fois commerciaux,
et
économiques, etc.
Et c'est cette ville-là dont il faudrait sortir pour arriver Absolument. À retrouver peut-être des cités. Alors l'image, on peut aussi la prendre avec l'image de l'Arche de Noé, hein, autour de la question comment construire finalement des cités,
oui,
des vraies cités qui incluent tout le monde et qui soient ouvertes. Comment construire une nouvelle Arche de Noé? Allez, je propose d'écouter, je pense que c'est plus dans la ville, Les Malheurs du Lion, signé Thomas Fersen sur RFI.
Café rêvait un lion devant sa consommation. Il voit venir une abeille vêtue d'un tailleur querelle de noir avec le soleil. Une petite merveille, elle grésille, elle bourdonne avec l'accent de Narbonne et gentiment elle butine un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion devant sa consommation. Il voit venir un moucheron vêtu d'un complet marron avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front qui grésille, qui s'éseille avec l'accent de Marseille qui qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Hey petit, je suis le lion. Allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu zézailles, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, ou tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux te battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort.
Les malheurs du lion en ville, hein, version Thomas Fersen sur RFI. Autour de la question comment construire une nouvelle arche de Noé, question ouverte par une philosophe défricheuse, Joël Zask, notre invité dans son dernier essai particulièrement original, Zoo City, des animaux sauvages dans la ville ou comment apprendre à cohabiter avec les animaux sauvages qui, faute de mieux, deviennent nos voisins en ville. Nouvel éclairage du démographe Jacques Véron qui a beaucoup travaillé lui sur le sous-continent indien.
Au Taj Mahal, les singes sont présents et maintenant les touristes ont un peu peur d'y aller. C'est vrai qu'ils ont un comportement très agressif. On a vu, à la faveur du confinement, il y a des éléphants qui se sont promenés dans les villes. Après, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le rapport entre l'homme et l'animal ? Je ne sais pas si c'est une question purement urbaine. Pour moi, c'est plus une question de saturation de l'espace, le partage de l'espace, disons, avec des effets un peu paradoxaux. On voit dans beaucoup de régions maintenant le développement des cerfs, des sangliers qui deviennent très invasifs. Alors d'un côté, ils ont moins d'espace vital, mais en même temps, il y a des cultures qui leur sont très favorables, cultures du maïs, et qui font qu'ils se développent. Et maintenant, ils n'ont plus peur. On les voit se promener dans les villes, dans les villages, la nuit. Ce sont quand même des phénomènes assez nouveaux. Donc, qui sont liés d'un côté à la démographie animale et de l'autre côté au fait que des espaces vierges vraiment, il y en a de moins en moins. Et donc, la cohabitation se fait sur des espaces déjà occupés par ailleurs, soit par des individus, soit par l'agriculture, parce qu'il y a quand même développement d'une agriculture industrielle qui a consommé beaucoup d'espace.
Espèce d'espace, pour paraphraser Georges Perec, au fond, c'est aussi, et peut-être d'abord, une question d'espace à partager, Joël Zask, entre espaces et... On n'a pas besoin d'ouvrir nos villes, hein. On a besoin peut-être d'en faire des cités, mais on a besoin d'ouvrir nos villes aux animaux sauvages, ils y viennent, parce que c'est là qu'ils trouvent habitat, nourriture et des opportunités.
Telle que la ville est conçue, on peut penser à Paris, on peut penser à Marseille, on peut penser aux villes européennes, aux villes européennes en général. Les villes sont quand même, comme pour Babar, très dangereuses pour un petit éléphant et très dangereuses pour que ce soit des ratons laveurs, des sangliers, des chevreuils, des kangourous à Canberra, etc. C'est-à-dire que on voit un peu partout des cadavres d'animaux sur les routes. On sait que des milliards d'oiseaux s'écrasent sur les fenêtres des gratte-ciel au moment de la migration ou lors de leur promenade nocturne. On sait que, bien sûr, beaucoup d'animaux sont empoisonnés par des produits toxiques mis à leur disposition, en quelque sorte, volontairement ou pas. La chasse urbaine se développe, c'est un nouveau sport.
La chasse urbaine, la chasse en ville.
La chasse en ville, oui, c'est un nouveau sport. Alors évidemment, elle obéit à des principes un peu différents de celles qui a lieu dans les forêts, parce qu'il s'agit quand même de maîtriser la balle de la carabine et le poison.
Oui, vaut mieux, qui est
donné. Voilà. Donc, alors c'est une chasse par piégeage, essentiellement. Et beaucoup de gens s'amusent, vont de plus en plus s'amuser à ça. Donc, il y a plein de dangers en ville, et la ville n'est pas du tout ce havre, cette arche de Noé, justement, qu'on considérait au départ. Donc, comment justement transformer la ville de manière à ce qu'elle soit non pas accueillante pour les animaux, mais à ce qu'elle soit moins destructrice de la vie animale, sachant encore une fois que le double impératif qui est le nôtre, c'est d'un côté d'avoir à éviter d'exterminer tous les animaux qui se présentent, parce que, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure, mais que l'autre problème, Et d'éviter aussi une trop grande promiscuité avec les animaux.
Mais oui, parce qu'on le voit aujourd'hui avec cette pandémie, parce qu'il y a aussi une question de barrières interespèces, de frontières interespèces, à ne pas trop franchir. Il y a une distance, vous le dites vous-même très bien, il y a une juste distance à avoir finalement avec ces animaux, en général et sauvages en particulier.
Et tout mon essai, en fait, est consacré à la découverte, à l'identification de cette bonne distance. Quelle est la bonne distance ?
Vous avez trouvé ?
Et là, je crois... Je pense que l'écologie nous donne la manière dont les choses sont faites dans la nature ou dans la société démocratique, parce qu'en fait, c'est la même chose. Je pense que c'est justement la bonne distance.
En vous lisant, voilà, que tout est question de la bonne distance. Quand vous parlez du sauvage qui est en nous, qui est à l'extérieur de nous, des crises environnementales, des crises sanitaires, au fond, vous vous intéressez aux animaux sauvages, c'est-à-dire aux autres absolus. Mais c'est la question de l'altérité, c'est la question de l'autre. Comment on accueille l'autre ? Parce qu'on doit tous vivre ensemble, parce qu'on est de plus en plus nombreux, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, dans le même bateau. On y revient à cette fameuse arche de Noé, c'est ça.
Oui, et parce que des virus sont susceptibles de sauter de l'un à l'autre. Et ça, je crois que c'est aussi la leçon du Covid. Donc, effectivement, la question que je pose n'est pas purement logée dans les relations entre les êtres humains et les animaux. Elle est aussi interhumaine, bien sûr. Et c'est toujours, bien sûr, cela que j'ai à l'esprit. La question de la bonne distance, c'est la question du voisinage. Et je trouve très intéressant, justement, de penser le voisinage... En le distinguant à la fois du rapport ami-ennemi qui est si présent dans la philosophie politique en général, mais également dans nos relations avec la nature, et en l'opposant aussi à une espèce de d'irénisme ou d'angélisme qui voudrait qu'on soit tous amis et que nous vivions tous de manière symbiotique au contact les uns avec les autres.
Et vous dites, c'est pas vrai, les animaux sauvages sont des animaux sauvages, ils peuvent être dangereux pour nous, évidemment, de même que les petits virus qui passent sont dangereux pour nous. C'est-à-dire que, au fond, vous dites ni pour ni contre, mais avec. Ce qui est le plus compliqué, finalement.
Ce qui est compliqué et en même temps, ce qui pose des problèmes, je dirais, très matériels, très concrets. Des problèmes d'organisation de l'espace, des problèmes de construction, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-design, des problèmes architecturaux et urbanistiques, et moins des problèmes moraux. Parce que je pense que le problème moral ne peut pas régler ces histoires-là.
C'est-à-dire qu'on peut avoir de bonnes... Vous déplacez ça, finalement.
Oui.
C'est pas une question morale, c'est pas j'aime les animaux ou j'aime pas les animaux.
C'est pas non plus une question juridique. La question juridique peut se poser, celle du droit des animaux. Elle va se poser, mais après. Enfin, je dirais que c'est... Mon travail se situe peut-être en amont de ce questionnement-là. Pour moi, la question, je dirais, elle est à la fois démocratique et écologique. Elle est politique, en fait. Elle est profondément politique. Et effectivement, la question politique par excellence, c'est de vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis comme voisins. Parce que si nous étions tous frères ou tous amis ou tous amoureux les uns des autres, et s'il n'y avait aucun problème dans le fait que nous partageons des mêmes espaces, on n'aurait absolument pas besoin de politique. La politique, elle est faite pour éviter que nous nous entretuions, en quelque sorte. Donc, je crois que je pars de là, tout simplement. Je pars du fait qu'on ne choisit pas ses voisins. Et il n'est pas nécessaire de les aimer, il n'est pas nécessaire de les haïr. Les voisins sont des gens qui sont à une proximité géographique de moi. Et aborder les animaux de cette façon, c'est peut-être aussi se donner des outils pour rétablir les conditions d'un voisinage relativement harmonieux à l'intérieur des villes, c'est-à-dire, encore une fois, transformer les villes en cités. Parce que la ville ne tolère pas le voisinage. La ville a un idéal beaucoup plus élevé. C'est un idéal d'uniformité. On le voit bien, justement, les villes, elles sont, je dirais, dans l'idéal. Alors, bien sûr, la réalité n'est pas toujours en phase avec l'idéal, heureusement. Mais les villes sont des espaces complètement géométrisés. Ce qu'on appelle le zonage, le fonctionnalisme, la spécialisation des espaces.
Au fond, vous voulez réensauvager un petit peu nos villes.
Ah oui, complètement. Hein, oui.
Les réensauvager, les réouvrir pour justement essayer, puisque c'est autour de cette question qu'on tourne, de construire une nouvelle arche de Noé. Alors, on a pu un peu quand même, vous l'avez dit aussi, faire cette expérience de pensée en vrai, hein, pendant la première période de confinement, suite à la Covid-19, confinement qui est à nouveau d'actualité, en Europe en tout cas, et pas seulement, avec la deuxième vague de cette pandémie.
Je pense qu'à 9h du soir, on va pouvoir se mettre avec des torches à la fenêtre pour observer ce qui se passe dans les rues.
Exactement, et écouter ce qui se passe dans nos rues, parce qu'on avait pu apprécier, entre autres, malheureusement, le silence dans nos villes, exactement le chant et le son des autres animaux animaux qui ne sont ni motorisés ni industrialisés. Je propose un nouvel éclairage. C'est celui du bioacousticien Jérôme Sueur du Muséum national d'histoire naturelle qui évidemment a lui aussi prêté l'oreille.
Je suis rendu compte d'un changement sonore, d'un changement acoustique autour de là où je vis. Et c'était vraiment flagrant. Moi, ça m'a en fait rappelé les jours de neige, l'hiver, où il n'y a plus de circulation et tout est atténué. Là, c'était à peu près la même chose. Il n'y avait plus de bruit de la circulation, plus de bruit des avions, plus de bruit dans la rue. Mais en revanche, on entendait beaucoup mieux, notamment le chant des oiseaux, le son des feuilles dans le vent. Un grand changement sonore.
On peut dire que c'était une sorte d'expérience, hein, pour le pire, on est d'accord, mais aussi une expérience grandeur nature pour les acousticiens en général, enfin pour ceux qui ouvrent leurs oreilles.
Oui, c'est une expérience qui n'était pas programmée, qui n'est pas désirée, hein. Évidemment. Hein. Bien sûr, mais ça reste une expérience à grande échelle, à la fois temporelle et spatiale, parce qu'on a retirer quelque chose de notre environnement, on a retiré une forme de pollution, la pollution sonore, et donc on peut observer ce qui se passe, à la fois pour les êtres humains, mais aussi pour la nature, voir ce qui se passe finalement sans bruit. C'est une situation exceptionnelle, donc en quelque sorte, on a l'opportunité de cette situation pour essayer d'en tirer des conclusions, notamment écologiques.
Vous pensez aussi, Joël Zas, qu'on peut tirer des conclusions écologiques ou d'autres manières de vivre ensemble, d'habiter les villes ou les cités plus ouvertes à partir de ce qui nous arrive, que ce soit cette pandémie, que ce soit ces crises écologiques, environnementales, sanitaires, qui nous forcent en fait quelque part à essayer de construire une arche de Noé?
Sans doute. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des liens très forts entre l'expérience de l'apparition d'animaux sauvages dans les villes et le vote écologique ou le vote pour des partis qui ont un programme vert à leur actif aux élections municipales, aux dernières élections municipales pour parler de la France. Je crois qu'effectivement, cette apparition d'animaux sauvages a mis en branle quelque chose dans l'esprit de beaucoup de gens, dont le mien d'ailleurs.
On a revu apparaître ces animaux sauvages qui ont toujours été là, vous le dites vous-même. Il y en a certains qui ont disparu. Moi, j'ai découvert dans votre ville petite, je prenais le métro, je suis parisienne, effectivement, on entendait les grillons dans le métro parisien, oui. C'est fini.
Oui, il n'y a plus de grillons, il n'y a plus les grillons parce que les pauvres petites bêtes qu'on adorait écouter et qui nous rappelaient un coin de Provence ensoleillé, on se nourrissait de mégots de cigarettes. Donc, c'est vraiment l'interdiction de fumer qui les a tués et qui les a fait disparaître. Bon, alors on ne va pas pour autant prôner le rétablissement
du tabagisme dans le métro. Mais non, mais c'était tabagisme, ça montre à quel point on est liés. Enfin voilà, et ceux qui vivent avec nous, les sauvages peuvent être un peu commensaux eux aussi. Je propose maintenant de faire un petit exercice sonore. Ce n'est pas un exercice, c'est plutôt une petite pause sonore autour de la question comment construire une nouvelle arche de Noé. On continue de se réinventer, d'imaginer d'autres possibles, d'autres cités possibles sur RFI, avec Monica Fantini et cet épisode d'Écouter le Monde, intitulé « Rêve de ville sauvage », dans lequel Monica a mixé des lémuriens de Madagascar, des grenouilles d'Aubonne, des cigales à Tokyo, des coqs au Caire avec des sifflets à Bruxelles, des sirènes à Chicago et même des marchands à Venise. « Rêve de ville sauvage ».
Thank you.
extrait du rêve de ville sauvage, signé Monica Fantini sur RFI. Pour écouter le monde, ça vous parle, Joël Zask?
Oui, ben voilà, c'est effectivement une forme de coexistence, là, sonore, qui se met en place, et c'est très poétique.
Joël Zask, dans cet ouvrage, Zoo City, vous faites aussi l'éloge de l'imprévisible. Et je trouve ça intéressant parce que ce sauvage dans nos villes, ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, c'est aussi, je ne sais pas si s'adapter, mais en tout cas c'est faire avec l'imprévisible. Et on a peut-être besoin aujourd'hui, enfin, on en a besoin, on est obligé.
De fait, l'imprévisible, c'est, si on veut l'associer à la part de sauvage qui est en chacun, en chacun de nous et qui serait peut-être sans doute logée dans chaque être vivant, tout simplement. Cet imprévisible est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'un être vivant et un humain en particulier, peut-être sans doute un animal également, disons, a une part d'improvisation. Il a toujours dans son comportement quelque chose qui va déroger par rapport à ce qu'on sait de lui. C'est Solo qui disait, son éloge de la nature n'était pas du tout un éloge angélique ou contemplatif. Le marcheur américain. Voilà, de la cabane. Et non, en fait, il dit que la nature, il n'en a jamais, dit-il, assez de la nature parce que il y a toujours quelque chose d'autre à connaître, il y a toujours quelque chose d'autre à découvrir. Et donc cette irréductibilité de chaque être à ce qu'on en sait, à la manière dont on le cadre, dont on le conçoit, à nos préconceptions, comme à nos études d'ailleurs, est quelque chose qui est intrinsèquement précieux. Je pense que nos enfants, par exemple, évidemment, ne sont pas exactement les êtres que nous prévoyons, sinon ils ne seraient même pas des êtres humains.
Ce serait pas drôle, mais bien sûr.
Ça serait pas drôle et ça serait même pas humain. Et je crois qu'il en va de même avec les petits... ça serait mort. Et donc, les animaux peuvent tout à fait, sans aucun anthropocentrisme, être crédités de ce qu'ils ne sont pas, la réalisation d'un programme qui est gravé quelque part d'avance et de toute éternité. Chaque animal a son histoire de vie, qui évidemment dépend aussi de son contexte de vie, de sa trajectoire, de peut-être son tempérament. Et même certaines abeilles, apparemment, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au lieu de se livrer à la tâche qui leur échoit du fait de leur conformation biologique, en réalité, se tournent les pouces, dérogent à la règle.
Même chez les fourmis, il y en a certaines qui ne font rien, c'est absolument vrai. L'intérêt de les embarquer tous dans une nouvelle arche de Noé à créer en lisant votre ouvrage, hein, véritablement. Merci beaucoup, Joël Zask, de nous avoir un petit peu ouvert les yeux et les oreilles. Alors, je rappelle le titre de cet essai passionnant, hein, vraiment. Zoo City, des animaux sauvages dans la ville, publié aux éditions Premier Parallèle. Ça vaut vraiment le détour. On peut aussi citer votre précédent ouvrage qui m'avait aussi ouvert les yeux, Quand la forêt brûle, consacré au méga-feu. Et ben, je veux dire que j'attends maintenant votre prochain essai avec impatience, car il va encore m'emmener, je ne sais pas où, avec une longueur d'avance. En attendant, allez, on se quitte juste pour le plaisir, avec peut-être le carnaval des animaux, mais oui, de Camille Saint-Saëns. C'est pour vous, Joël Zask. Merci.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est presque fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr nous écouter, nous podcaster à volonté. Alors n'hésitez pas, rendez-vous demain si vous le voulez bien, chers amis auditrices et auditeurs, pour de nouvelles interrogations à soulever ensemble avec Hugo Violas. À la réalisation, Elsa Olaizola en coulisses et Caroline Nechowski au micro pour vous servir. D'ici là, portez-vous bien, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, bientôt l'heure du prochain journal.